Et oui, comme tous les 15 jours, nous prenons des nouvelles de l'Union européenne avec Camille Djurovic et Adam Bailly, tous deux représentants de Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain, avec qui nous réalisons cette chronique en partenariat. Bonjour Camille.
Bonjour Nicolas.
Et bonjour Adam.
Bonjour.
Alors vous avez sélectionné trois actualités aujourd'hui. Nous allons évoquer les élections européennes de 2024. Nous allons parler de cette proposition de la Commission européenne, une proposition de créer des normes éthiques communes à toutes les institutions de l'Union européenne. Et enfin, nous apprendrons que la Commission européenne propose désormais des moyens pour exploiter pleinement le potentiel de l'économie sociale. Et nous commençons avec vous, Camille Djurovic, pour cette première actualité, les élections européennes de 2024.
Oui, Nicolas, alors ça peut paraître loin, mais ça y est, les dates des prochaines élections européennes ont été fixées. Elles se dérouleront du 6 au 9 juin 2024 dans les États membres de l'Union européenne. Alors, pour rappel, ces élections verront le renouvellement des 705 sièges de députés européens, donc là où se côtoient, négocient et votent des députés, donc issus de 7 partis politiques différents, autant de votes et de sujets qui impactent le quotidien de plus de 450 millions d'habitants dans l'Union européenne.
Alors ça approche, mais est-ce qu'on a le moyen de mesurer le ressenti des Européens à moins d'un an de ces élections qui sont quand même très importantes pour l'avenir de l'Union européenne ?
Alors oui, à un an des élections, les Européens ont conscience de l'impact de l'Union européenne sur leur vie. C'est en tout cas ce que révèle l'enquête Eurobaromètre du Parlement européen.
Eh bien, dans ce cas, regardons plus en détail les résultats de cette enquête, Camille.
Bien sûr, Nicolas. Alors voici quelques données chiffrées concernant cette enquête menée à l'échelle européenne. On apprend donc que 71% des citoyens reconnaissent l'influence de l'Union européenne sur leur quotidien. Les niveaux de satisfaction les plus élevés concernent le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine et la défense de la démocratie et de l'état de droit. On peut aussi dire que plus de la moitié des personnes interrogées s'intéressent aux prochaines élections européennes. Enfin, les jeunes sont les plus susceptibles de soutenir le renforcement du rôle du Parlement européen. Et 62% des personnes interrogées ont récemment entendu parler du Parlement.
Alors, intéressons-nous aux Français. Est-ce qu'ils sont dans la norme ?
Eh bien, comparativement aux résultats européens, l'enquête laisse entrevoir des différences notables. En effet, seuls 40% des Français se disent intéressés par les élections européennes, contre 56% des Européens dans leur ensemble. Ils sont néanmoins 67% à reconnaître l'influence de l'Union européenne sur leur quotidien. Donc, c'est donc similaire avec les résultats européens qui s'établissent à 71%. Et comme 38% des Européens, 39% des Français ont une opinion neutre de l'Union européenne. 35% en ont une opinion positive, contre 45% des Européens. Et 25% en ont une opinion négative, contre seulement 17% des Européens. Et 1% ne sait pas.
Donc les Français sont un peu plus critiques. Bon, ça nous ressemble bien, on va dire.
Oui.
Qu'est-ce que tout cela implique ?
Eh bien, malheureusement, le travail des institutions européennes n'est pas assez connu. Et le rôle du Parlement européen, qui a acquis des pouvoirs législatifs très importants dans de nombreux domaines, est là aussi peu connu. Il y a donc un véritable travail à engager pour que les habitants de nos territoires se saisissent davantage des sujets qui sont débattus et votés au sein des institutions européennes.
Alors justement, si on revient, Camille, sur les résultats de l'enquête Eurobaromètre, quels sont les thèmes sur lesquels les Français souhaitent que l'Union européenne intervienne ?
Eh bien, les Français souhaitent que l'Union européenne intervienne en priorité, tout comme les Européens, dans le même trio de tête, sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la lutte contre le changement climatique et la santé publique. Parmi les valeurs qui doivent être défendues en priorité par le Parlement européen, les Français indiquent l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'expression et de pensée et la démocratie. Et tout comme 76% des Européens, les Français sont 77% à approuver ou à approuver fortement le fait que l'Union européenne soutienne l'Ukraine à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Qu'en est-il à propos des dernières mesures prises pour lutter contre la hausse des prix ?
Eh bien là, 74% des répondants français ne sont pas satisfaits des mesures prises jusqu'ici par le gouvernement français pour lutter contre la hausse des prix. Concernant les décisions prises à l'échelle européenne pour lutter contre la hausse des prix, ils sont 66% de Français à ne pas en être satisfaits, 16% à se déclarer satisfaits et 18% à ne pas savoir.
Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure en définitive de cette enquête ?
Eh bien, même si les Européens ont conscience que l'Union européenne a un impact dans leur vie quotidienne, ils n'ont pas toujours toutes les clés de compréhension sur les décisions qui ont été prises et qui sont souvent le résultat d'années de négociations, que ce soit sur la lutte contre le changement climatique, l'emploi, le numérique ou encore l'agriculture. Vous l'aurez compris, Nicolas, on a encore beaucoup de travail devant
nous. Effectivement, même si modestement on essaie de le faire sur RCF, hein, on sait que ça ne suffit pas. Donc il faut encore plus sensibiliser. On va passer à la deuxième actualité avec vous, Adam Bailly. La Commission propose donc la création de normes éthiques communes à toutes les institutions de l'Union européenne.
Oui Nicolas, la Commission européenne a proposé de créer un organe interinstitutionnel chargé des questions d'éthique. Il couvrira l'ensemble des membres des institutions de l'Union européenne. C'était un souhait de la présidente Ursula von der Leyen qui l'avait annoncé en début de mandat et après que des consultations informelles aient été menées auprès des autres institutions.
Concrètement, donc, à quoi va servir cet organe ?
Eh bien, la création de l'organe chargé des questions d'éthique va rendre possible la mise en place des normes communes en matière de conduite éthique des membres. Grâce à ces changements, les responsables politiques de l'Union européenne seront tenus de respecter des normes communes, claires, transparentes et compréhensibles.
Alors, est-ce qu'il n'existait pas déjà un code éthique ?
Alors si, évidemment, les traités fixent des règles générales et les principes de conduite. Mais la plupart des institutions les ont détaillés dans leur propre règlement intérieur ou code de conduite. Après, avec pour conséquence une fragmentation des cadres éthiques des institutions, avec des règles complexes et éparses. Si certaines différences peuvent s'expliquer par les rôles propres à chaque institution et par les différents risques inhérents aux différentes fonctions, il est évident qu'une culture éthique commune était nécessaire.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de domaines qui seront donc concernés par ce nouveau code ?
Oui Nicolas, les normes concernent plusieurs domaines comme l'acceptation de cadeaux, de propositions d'hébergement et de voyages offerts par des tiers. Les normes s'appliqueront également à l'acceptation de récompenses, de décorations, de prix ou de distinctions honorifiques.
C'est-à-dire qu'on ne devra pas accepter, hein, on est d'accord.
Alors justement, les règles vont devoir être fixées, mais oui, pour la majorité, ça ne devra pas être accepté.
Très bien.
Les normes concerneront aussi les réunions avec les représentants d'intérêts. Donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne disposent déjà de normes communes en ce qui concerne les réunions tenues avec les représentants d'intérêts et les publications d'informations à leur sujet grâce au registre de transparence. Les normes seront élargies de manière à inclure, par exemple, l'accès aux locaux des institutions. Il s'agira aussi de veiller aux activités exercées par les anciens membres après leur mandat, d'établir des conditions et exigences de transparence.
Quelles sont les premières étapes de cette rédaction ?
Eh bien, la Commission européenne invitera l'ensemble des institutions et organes consultatifs à une réunion le 3 juillet à Bruxelles afin d'entamer le dialogue et les négociations interinstitutionnelles.
Oui, ça approche à grands pas, effectivement. On va passer à la troisième actualité, toujours avec vous, Adam Bailly. La Commission européenne propose des moyens pour exploiter pleinement le potentiel de l'économie sociale.
Tout à fait, Nicolas. La Commission européenne recommande de mettre en place des mesures concrètes pour soutenir l'économie sociale, qui place l'humain et l'éco-social et environnemental avant le profit.
Qui est concerné ?
Beaucoup de monde, Nicolas. L'Europe compte 2,8 millions d'entités de l'économie sociale, qui emploient 13,6 millions de personnes pour répondre aux principaux défis de nos sociétés. Elles sont présentes dans un large éventail de secteurs qui vont des services sociaux et de soins au logement, en passant par les loisirs et l'énergie abordable. Cela englobe les coopératives, les mutuelles, les associations à but non lucratif, les fondations et les entreprises sociales.
Alors c'est bien noté, mais en définitive, quel est le but de cette proposition ?
Eh bien, la proposition vise à créer des conditions favorables à la prospérité et à la croissance des organisations de l'économie sociale et à sensibiliser à leur potentiel, notamment en ce qui concerne la création d'emplois de qualité, le soutien à l'innovation et l'inclusion sociale.
Alors, ça semble très vertueux, mais ce n'est pas encore très clair. Est-ce qu'on a déjà des pistes concernant les mesures concrètes qui pourraient être prises ?
Oui, cela passera notamment par une proposition de recommandation du Conseil invitant les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies d'économie sociale. Le but est aussi de garantir que les systèmes fiscaux soutiennent l'économie sociale en simplifiant les procédures administratives et en envisageant des incitations fiscales conçues de manière appropriée. Il s'agit aussi d'améliorer l'accès aux financements publics et privés, y compris aux fonds de l'Union européenne, et aussi permettre l'accès aux débouchés commerciaux et aux marchés publics.
Oui, parce qu'on sait, bon, ces fonds de l'Union européenne ont le mérite d'exister, d'être conséquents, mais ça peut être très compliqué d'y accéder. Donc une simplification serait plus que la bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres mesures prévues ?
Oui, la Commission européenne lance également le portail de l'économie sociale, un site web qui sert de guichet unique et fournit aux entités de l'économie sociale des renseignements sur les financements proposés par l'Union européenne, les possibilités de formation et les événements ainsi que des formations spécifiques à chaque pays et des ressources supplémentaires encore.
Alors, question un peu candide, mais pourquoi est-il important d'aider l'économie sociale ? Pourquoi faut-il ce soutien de l'Union européenne ?
Eh bien, malgré leur contribution à la société, les organisations de l'économie sociale doivent souvent faire face à des obstacles pour se développer et étendre leur activité en raison d'un manque de compréhension et de reconnaissance de leur modèle économique.
Donc, pour le moment, Adam, il s'agit de propositions. Les prochaines étapes, quelles sont-elles ?
Eh bien, les États membres examineront la proposition de recommandation du Conseil présentée par la Commission en vue de son adoption donc par le Conseil. Une fois la proposition adoptée, les États membres sont invités à adopter ou à actualiser leur stratégie en matière d'économie sociale dans un délai de 18 mois. Il est également recommandé aux États membres de créer un guichet unique pour soutenir l'économie sociale, de mettre en place des points de contact locaux et ou régionaux faisant office d'ambassadeurs de l'économie sociale, et enfin de désigner des coordinateurs de l'économie sociale au sein des institutions nationales pour assurer la cohérence entre les politiques.
Merci beaucoup Adam Bailly.
Merci à vous.
Et merci Camille Durovic.
Merci beaucoup Nicolas Dufour.
Bien sûr, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique en partenariat avec Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain.